Alors, mon intervention va porter sur l'interprétariat à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un terrain ethnographique que j'ai mené en 2016, donc à la CNDA, dans le cadre du programme ANR Babel, dirigé par Michel Agier. Mais avant d'en venir à ce terrain proprement dit, en introduction, je voudrais juste dire deux mots sur la manière dont j'en suis venue à m'intéresser, en fait, dans mes travaux, à la question de l'interprétariat. Puisque au départ, mon entrée est celle des migrations internationales. Donc, je suis d'abord sociologue des migrations et notamment le premier volet de mes travaux que j'ai mené au Maroc et ensuite au Sénégal s'est intéressé dans le contexte qu'on appelle d'externalisation du migratoire, aux pratiques et aux expériences de la migration dans le cadre de mobilité qui se retrouvent bloquées en cours de route. Alors plus précisément, j'ai fait ma thèse au début des années 2000 sur la migration dite de transit des Sénégalais au Maroc, où je m'étais intéressée à partir d'une approche ethnographique à la manière de vivre à la frontière, dans la frontière, dans le cadre de migrations du coup, qui se retrouvent bloquées en cours de route. Et puis, ensuite, en 2008 notamment, j'avais enchaîné sur un post-doctorat portant sur le devenir des refoulés sénégalais au Sénégal. Et puis, à partir de 2010, j'ai investi de nouveaux terrains en France qui m'ont amené à articuler à la question, aux questions de migration la question de la santé. Et c'est notamment dans le cadre d'une étude qui était financée par l'INCa et où j'ai rencontré Hélène Marche puisque nous avions travaillé ensemble dans cette étude. C'est dans le cadre donc de cette étude financée par l'Institut national du cancer que la question de l'interprétariat s'est posée à moi, puisque pour ma part, je travaillais dans le cadre de ce projet de recherche sur les parcours de soins des étrangers et des immigrés atteints de cancer en Bretagne. Et dans cette recherche, la question de l'interprétariat, c'est quelque part doublement posée à moi, puisqu'elle s'est posée comme méthode d'enquête, notamment face à des patients immigrés ou étrangers ne parlant pas français ou parlant très très peu français, bah comment communiquer en fait, comment mener des entretiens. Donc l'interprétariat s'est posé comme méthode d'enquête, mais aussi la question de l'interprétariat s'est posée comme objet d'étude, comme un objet d'étude, notamment dans l'analyse de la relation soignant-soigné et de ses effets sur les prises en charge et sur les trajectoires de soins. Par la suite, j'ai continué à approfondir cette question de l'interprétariat dans le cadre de plusieurs recherches qui avaient pour point commun de porter sur la prise en charge des demandeurs d'asile. Donc, par exemple, en santé mentale, la question de l'interprétariat en santé mentale auprès des demandeurs d'asile, ou encore dans le cadre d'autres recherches où je me suis intéressée à l'interprétariat bénévole dans le cadre d'associations de solidarité à destination soit de demandeurs d'asile ou de sans-papiers. Et c'est donc dans le prolongement en fait de ces travaux qu'en 2016, j'ai mené un terrain ethnographique donc sur l'interprétariat à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Mon intervention du coup va se dérouler en deux grandes parties, puisque dans une première partie, je vais revenir en fait ou soulever à partir d'une réflexion vraiment transversale, une réflexion méthodologique transversale, je voudrais soulever quelques enjeux liés à la langue et à l'interprétariat en sociologie des migrations, et notamment sur la manière de construire les terrains de recherche. Donc une réflexion assez générale, assez rapide et assez générale, posant ces questions de la langue dans la construction du terrain, notamment en sociologie des migrations. Et puis, dans la deuxième partie de mon intervention, donc je vais plus précisément sur le terrain d'enquête mené à la Cour nationale du droit d'asile en exposant donc quelques résultats liés à ce terrain ethnographique. Alors, pourquoi est-ce que ça me semble intéressant d'aborder la question de la langue et de l'interprétariat dans la construction des terrains d'enquête? Parce qu'au final, c'est une question qui en sociologie, alors moins en anthropologie, mais qui en sociologie est assez souvent laissée de côté au final ou assez souvent invisibilisée. Si on regarde un petit peu comment se déclinent les travaux en sociologie des migrations, de manière schématique, deux cas de figure sont les plus courants. Soit le chercheur est lui-même d'origine étrangère, il partage une langue maternelle commune avec les migrants enquêtés, et c'est la langue qu'il va utiliser en entretien. Soit le chercheur ne partage pas la langue maternelle des migrants, et il tend alors à s'entretenir exclusivement ou majoritairement pour des raisons de faisabilité, de contraintes d'enquête, aussi pour des raisons d'efficacité en termes de facteurs temps, coûts, etc. Donc il va avoir tendance dans ces cas-là à s'entretenir prioritairement avec les migrants avec qui il partage une langue vernaculaire. Et au final, c'est ce que j'ai moi-même fait, puisque lors de mes terrains au Maroc et au Sénégal, je me suis à chaque fois majoritairement entretenue avec des Sénégalais qui parlent, alors certes à des niveaux, à des degrés variables, mais avec qui j'arrivais quand même à communiquer en français. Et de la même façon, lors de l'étude financée par l'Institut national du cancer sur les parcours de soins des étrangers et des immigrés atteints de cancer en Bretagne, je me suis majoritairement entretenue avec des patients ou leurs proches parlant français, même si à des degrés ou des niveaux très inégaux. Et au final, ces choix, alors que l'on pourrait qualifier de pragmatiques, introduisent un biais. Et il me semble que ce qui fait le biais, ce ne sont pas ces choix en soi, mais plutôt le fait que ces choix ne sont pas interrogés pour ce qu'ils impliquent. Puisque, de fait, la langue, tout un profil de migrant va se retrouver plus ou moins mis de côté dans l'enquête ethnographique, alors même que les ressources linguistiques sont importantes dans les épreuves migratoires, que ce soit par exemple pour communiquer avec les institutions, mais aussi elles sont importantes dans les rapports entre migrants, avec la population locale, etc. Et du coup, le langage informe quelque part sur la position des interlocuteurs dans l'espace social, et en même temps, on voit qu'il induit un processus de sélection des enquêtés. Et les implications méthodologiques de cette sélection sont, quand on regarde les travaux en sociologie de la santé, au final assez peu interrogés. Pourtant, le langage contribue à construire l'objet et le terrain, puisqu'il va contribuer à orienter à la fois, donc, comme j'ai dit, le choix des enquêtés, mais aussi parfois le lieu de l'enquête. Et là, notamment, on en a un exemple dans les travaux de Rabinov au Maroc dans les années 60, dans son étude sur les saints. Alors, l'anthropologie a davantage insisté sur l'importance du langage comme terrain de rencontre et d'intelligibilité dans l'enquête et dans la relation d'enquête. Notamment, il y a toute une réflexion de Malinowski dans les jardins de corail autour des enjeux de la traduction et de la langue de l'enquête. Si c'est plus interrogé en anthropologie, ça l'est beaucoup moins en sociologie, sachant qu'aussi qu'en anthropologie, au final, apprendre la langue des enquêtés fait partie un peu des attendus de tout bon anthropologue allant sur des terrains, et notamment des terrains lointains. Alors, en l'absence d'un bagage linguistique qui permet de communiquer directement avec les enquêtés, les anthropologues, beaucoup plus que les sociologues, se sont interrogés sur les effets du recours à un interprète sur le déroulement du terrain, et notamment en s'intéressant au rapport entre chercheurs, interprètes et enquêtés, les anthropologues ont pointé l'accentuation des situations que Sardan appelle d'encliquage, c'est-à-dire où le chercheur va se retrouver au final très dépendant d'un informateur privilégié. Même là, dans ces travaux qui insistent sur l'accentuation de ces situations d'encliquage via la présence d'un interprète, et je reprends l'exemple de Paul Rabinow au Maroc, dans son ouvrage, il va très bien décrire la dépendance qu'il essaye de réajuster, de négocier, qui marque sa relation à ses informateurs, dont certains jouent un rôle d'interprète, mais c'est pas tant sur le langage et sur le rôle du langage dans ces formes de dépendance sur lesquelles il insiste, mais il insiste plus largement sur la manière dont le rapport de ses informateurs au monde étudié influe sur les portes qui lui sont ouvertes ou fermées. Mais voilà, c'est plus généralement lié à la position de cet informateur-interprète que lié à l'acte d'interprétariat plus précisément. Alors, je passe assez vite sur cette partie pour pouvoir me concentrer sur la deuxième partie, mais ça me semble néanmoins intéressant de s'interroger sur ces enjeux liés à la langue dans la construction du terrain. Et pour en revenir à mes propres expériences de recherche, notamment en santé, j'ai parfois été amenée donc, à faire des entretiens avec des tiers faisant office d'interprète, et le plus souvent c'était des membres de l'entourage qui pouvaient endosser ce rôle d'interprète. Alors forcément, passer par un tiers endossant un rôle d'interprète, ça va exacerber certains enjeux, et notamment les enjeux qui se jouent dans le rapport social enquêteur-enquêté, entre proximité, distance, confiance, méfiance, dit et non dit, etc. Et ces enjeux sont complexifiés puisqu'on n'est plus simplement dans le face-à-face chercheur-enquêté, mais qu'il va y avoir un tiers qui interagit. Si forcément cette présence a des effets, et ça a des effets également sur ce qui peut être dit, sur ce qui est non dit, sur la manière dont le discours de l'enquêté, enfin à la fois sur ce que veut bien vouloir dire en présence d'un tiers l'enquêté, mais aussi on ne maîtrise pas forcément, si on ne comprend pas la langue, ce que va traduire effectivement l'enquête. Donc tout cela, ça a forcément des effets, mais l'enjeu, il me semble, consisterait moins à chercher à neutraliser ces effets qui seraient vus comme un biais, parce qu'on aurait du coup un matériau moins pur, etc. Mais plutôt d'essayer de comprendre ces biais et à en faire un élément d'analyse qui va informer sur le terrain en lui-même. Et je rejoins du coup en ce sens la perspective défendue par Christian Papineau notamment d'enquête comme relation sociale. Alors, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces enjeux méthodologiques qu'on pourrait aussi poursuivre. Enfin, c'est loin d'être évident. Et puis, on pourrait aussi discuter des configurations différentes selon que dans l'enquête, on a recours à un interprète dit professionnel. Alors, je vais revenir aussi un petit peu sur ce terme, ou alors à quelqu'un qui endosserait hein, de manière profane, bénévole, ce rôle d'interprète. Voilà, ce que je propose peut-être plutôt de revenir sur ces enjeux dans la discussion, pour pouvoir me centrer sur la partie principale en fait de l'intervention autour de l'interprétariat à la CNDA, où là la question de l'interprétariat, je vais l'aborder dans cette présentation essentiellement comme un objet d'étude. Cette partie donc va porter sur l'interprétariat à la Cour nationale du droit d'asile et par là même sur un acteur qui est à la fois central mais souvent invisibilisé dans la procédure d'asile, ce sont les interprètes. En fait, les interprètes, ce sont des sortes d'intermédiaires de la migration et pour ma part, je les ai qualifiés de passeurs de frontières internes. Pourquoi ? Lors de mes précédents travaux, notamment au Maroc et au Sénégal, en m'intéressant d'un point de vue ethnographique à l'organisation des passages clandestins vers l'Europe et sur les formes de vie dans l'attente, à la frontière, etc., j'avais été amenée à identifier différentes figures. Par exemple, au Maroc, celle des Tiamans, qui sont au départ eux-mêmes des migrants qui étaient venus au Maroc pour essayer de passer clandestinement en Europe. Et ne venant pas à passer, se sont reconvertis dans l'organisation et l'économie de cette migration. Donc, par exemple, les Tiamans au Maroc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font passer des frontières territoriales. Ils essayent de faire passer d'un État à un autre. Les interprètes, pourquoi est-ce qu'on peut les qualifier de passeurs de frontières internes ? Parce qu'ils jouent aussi quelque part un rôle dans le passage, mais plus largement, enfin plus précisément, je veux dire, ils jouent un rôle en faisant passer des catégories profanes aux catégories de l'entendement institutionnel. Donc, pour le dire autrement, il joue un rôle dans le passage des catégories institutionnelles que j'ai appelées frontières internes. Ils vont jouer vraiment un rôle de pont, ou on pourrait dire de marginal séquent, pour reprendre l'expression de Crozier, puisqu'ils vont mettre en relation les catégories profanes et puis ces catégories de l'entendement institutionnel, pour reprendre la terminologie de Smail Machère. Puis ce qu'il faut bien voir, c'est que la migration, elle va impliquer à la fois la traversée de frontières territoriales, donc ça implique un déplacement géographique, mais ça va aussi impliquer la traversée des catégories institutionnelles, les catégories qui, au final, classent les individus et qui vont entériner ou pas leur légitimité à demeurer ou non sur un territoire donné. Donc c'est dans ce contexte-là en fait que j'interprète à la Cour nationale du droit d'asile comme quelque part des passeurs de frontières internes. Alors peut-être qu'il faut aussi pour mieux contextualiser le problème, je vais dire 2-3 mots très rapidement sur la Cour nationale du droit d'asile. Donc la Cour nationale du droit d'asile, c'est une juridiction auprès de laquelle les demandeurs d'asile peuvent déposer un recours lorsque leur demande d'asile a été rejetée en première instance par l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, l'OFPRA dépendant du ministère de l'Intérieur. Donc vraiment très rapidement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'asile, il y a un premier examen des demandes au niveau de l'OFPRA, à partir d'un dossier écrit et l'action du demandeur d'asile à un entretien qui va être conduit par un officier de protection, le plus souvent aussi en présence d'un interprète. Et si l'OFPRA émet un rejet de la demande d'asile, le requérant peut déposer, comme je l'ai dit, un recours via désormais un avocat à la CNDA, donc la Cour nationale du droit d'asile, où il va être ensuite convoqué en audience. Les audiences à la Cour nationale du droit d'asile sont publiques, donc tout le monde au final peut y assister, et elles se déroulent en présence d'une formation de jugement. formation de jugement parce qu'il y a trois juges, dont un juge assesseur qui est nommé par le HCR, le Haut Commissaire aux réfugiés des Nations Unies. Donc trois juges, un rapporteur qui en début de séance revient en fait sur les principaux éléments de l'affaire et termine son rapport par une conclusion où il émet une recommandation sur la suite ou pas à donner, enfin sur la suite à donner au recours. Donc plutôt il conclut sur un avis favorable, sur une précision ou bien plutôt sur un rejet. Et puis aux audiences est également présent donc le plus souvent un avocat et un interprète également, dans plus de 90% des cas, comme à l'OFPRA d'ailleurs. Et puis ensuite, voilà, un secrétaire d'audience, et puis peut être convoqué, du coup, soit une personne individuelle, ou bien si c'est une famille, plusieurs personnes peuvent être convoquées en même temps. Alors, quelques chiffres également, pour contextualiser, sans refaire une rétrospective historique, mais simplement pour rappeler les chiffres de 2018, ça va permettre aussi d'éclairer certains aspects du positionnement des interprètes. Donc en 2018, on peut rappeler que le taux de protection accordé en première instance par l'OFPRA est de 26,6%. Les nationalités aussi qui en 2018 font le plus de recours sont les Albanais, les Guinéens, les Haïtiens, les Bangladais, les Ivoiriens, les Congolais, RDC, les Géorgiens, les Nigérians, les Afghans et les Pakistanais. Et en 2018, le taux de protection accordé par la CNDA est de 18,4%. Par ailleurs, dernier point pour contextualiser un petit peu la demande d'asile, en 2018, les nationalités les plus représentées parmi les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, donc OFPRA et CNDA, sont les Soudanais, les Guinéens, les Syriens, les Chinois et les Érythréens. Alors voilà, après avoir un petit peu posé ce contexte, pourquoi s'intéresser à l'interprétariat et aux interprètes dans le système de jugement de l'asile et en particulier donc à la CNDA? Alors jusqu'à très récemment, notamment dans la littérature francophone, la question de l'interprétariat est demeurée absente vraiment d'un grand nombre de travaux sur l'asile. Et c'est un petit peu paradoxal puisque on remarque l'importance, y compris dans les travaux anthropologiques notamment, qui se sont intéressés à la question de la construction du récit. Or, cette question de l'interprétariat est d'autant plus centrale que à travers ces compétences linguistiques, c'est pas simplement à travers la question de l'interprétariat, c'est pas seulement des compétences linguistiques qui se jouent, mais se jouent aussi des représentations du monde. Et je prendrai un exemple dans la présentation. Alors, par ailleurs, l'importance de l'interprétariat se mesure à travers, au final, des données très, très objectives. Par exemple, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est plus de 90% des audiences qui ont lieu en présence d'un interprète. En 2016, la CNDA gère environ 500 interprètes, couvrant plus de 120 langues. Donc, ça représente aussi une organisation, un poste budgétaire très important à la Cour. Donc, voilà, ça montre l'importance de l'interprétariat à la CNDA. Autre point qui permet de souligner l'importance de l'interprétariat à la CNDA, cet autre point est lié à l'importance de l'oralité dans les procédures. Notamment, le décret du 16 août 2013 précise que les déclarations orales du requérant peuvent emporter la conviction du juge et avoir des effets juridiques. Donc, on donne beaucoup de place en fait à l'oralité. Et cette oralité joue un rôle d'autant plus important que les preuves matérielles de la persécution sont très difficiles à obtenir, le plus souvent. Et d'ailleurs, lorsqu'elles sont présentées aux juges, elles sont souvent examinées avec suspicion, tant il est difficile de les obtenir. Donc à la fois, ces preuves matérielles de la persécution sont difficiles à obtenir, et puis quand elles sont présentées, il y a toujours cette suspicion, est-ce que ce ne sont pas faux au final, tant il est difficile de s'en procurer. Et puis, autre point qui montre l'importance de la problématique de l'interprétariat, c'est le fait que des erreurs dans l'interprétariat à l'OFPRA revient de manière récurrente dans les recours et la plaidoirie des avocats à la CNDA. C'est-à-dire que dans les recours et dans leur plaidoirie qui a lieu à la fin de l'audience, les avocats pointent souvent des erreurs dans l'interprétariat à l'OFPRA qui, du coup, ont induit des malentendus et qui ont conduit au rejet de la demande d'asile. Donc, dans une perspective sociologique, j'ai cherché un petit peu à essayer de mieux comprendre les conditions de production de l'interprétariat dans ce cadre très contraignant qui est la CNDA. Et cela m'a amené à croiser à la fois les apports de la sociologie des institutions, de la sociologie interactionniste notamment, la sociologie des pratiques langagières et puis une ouverture aussi à la sociologie des groupes professionnels. Alors très rapidement, pourquoi sociologie des institutions ? Puisque la sociologie des institutions qui s'est notamment intéressée à la manière dont les catégories de s'imposent aux individus dans le cours des rencontres bureaucratiques, elle a contribué aussi à montrer comment, par-delà les rôles prescrits, les acteurs concernés travaillent au quotidien à l'institution qu'ils font vivre, qu'ils représentent. Ouverture se faisant aussi à la sociologie des groupes professionnels qui s'intéressent à l'activité en train de se faire des interprètes. Et comme je vais le montrer dans la présentation, c'est un aspect que j'ai notamment travaillé. Ouverture aussi à la sociologie des pratiques langagières qui s'intéressent, pour le dire vite, au processus de circulation et de distribution de la parole et qui conçoit en fait le langage comme une pratique sociale. Et puis, ouverture à la société interactionniste aussi, puisque en fait, ce qui m'intéressait de voir, c'était comment des interprètes qui structurellement, on va le voir, occupent une position de dominé au sein de l'institution, comment ils investissent leur rôle, et comment ils ont néanmoins une certaine autonomie et un certain pouvoir dans les échanges. Notamment parce que, au final, ce sont les seuls qui comprennent précisément ce qui se dit de part et d'autre. Donc, ils vont être vraiment au cœur des échanges de paroles entre les juges et les requérants. Alors, pour c'était les données de tout à l'heure. Trois points vont être précisément abordés dans la présentation. Donc, tout d'abord, essayer un petit peu de resituer les attentes institutionnelles de la Cour à l'interprète. Donc, quelles sont les attentes institutionnelles à la CNDA à l'égard des interprètes? Puis, dans un deuxième temps, je reviendrai sur un petit peu qui sont les interprètes qui interviennent à la CNDA. Et ça m'amènera aussi à aborder la question suivante. Au final, comment est-ce qu'on interprète à la CNDA? Et puis ensuite, j'aborderai la question des rapports des interprètes avec les juges et les requérants, qui m'amènera à soulever la manière dont les interprètes investissent leur rôle en situation et négocient plus ou moins certaines marges. Donc ce terrain, comme je l'ai dit, s'appuie donc sur un terrain ethnographique mené en 2016 à la CNDA dans le cadre de l'ANL. Et rapidement, donc, ce terrain ethnographique, qu'est-ce qu'il a impliqué? Donc, j'ai fait des observations d'audience, aussi beaucoup d'observations dans les couloirs, dans les halls de la cour, où se nouent beaucoup de discussions informelles entre les différents acteurs et qui sont très instructives. J'ai fait des entretiens formels avec les interprètes, donc des entretiens enregistrés, voilà, assez classiques, assez formels, qui ont été aussi couplés avec beaucoup de discussions informelles. J'ai aussi rencontré plusieurs prestataires auxquels sont rattachés les interprètes, puisque comme je vais l'expliquer, ils ne sont pas salariés ou directement rattachés à la CNDA. J'ai aussi pu rencontrer à plusieurs reprises la responsable du pôle interprétariat à la CNDA et également pu rencontrer l'ex-secrétaire général de la CNDA. Alors, comment est organisé l'interprétariat à la CNDA et quelles sont les attentes institutionnelles à l'égard des interprètes? Alors, la CNDA, les interprètes, ils occupent une position à la fois centrale et à la marge. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont extérieurs à l'institution, puisqu'ils vont être missionnés à la CNDA, comme à l'OFPRA d'ailleurs, via des prestataires de services, des cabinets d'interprétariat, par exemple, le plus connu, c'est ISM. Ces prestataires de services qui sont sélectionnés depuis 2003 par une procédure de marché public qui va être commune avec l'OFPRA. Donc, c'est vraiment, c'est important, c'est pas la CNDA qui directement les interprète. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis la fin des années 90 et surtout depuis le début des années 2000, avec une accélération encore ces toutes dernières années, la fonction d'interprète a fait l'objet d'une codification croissante à la CNDA. Par exemple, mise en place d'un code de déontologie, d'un livret d'interprète, d'une cérémonie annuelle d'assermentation. Et cette codification, elle vise plusieurs choses. Elle vise à mieux définir, normaliser les limites du rôle de l'interprète, donc les pratiques des interprètes en situation. Mais cette codification vise aussi à mieux contrôler et encadrer les relations des interprètes avec les autres catégories d'acteurs, notamment les avocats, les demandeurs d'asile. Et il s'agit notamment pour l'institution de limiter le rapport des interprètes avec les autres acteurs au cadre de l'audience et de s'assurer d'une distance entre eux qui va être vue comme garante de l'impartialité de l'interprète. Alors, je cite juste, parce que c'est assez parlant, un extrait du livret guide des interprètes daté de 2003 et qui montre, et j'y reviendrai, la suspicion de l'institution à l'égard des interprètes perçus comme potentiellement trop proches des demandeurs d'asile. Dans ce guide, il est dit « Gardez vos distances avec les milieux des demandeurs d'asile. Le respect des règles professionnelles est la seule réponse aux pressions que vous allez fatalement rencontrer au cours de votre vie professionnelle. » Donc, pourquoi cette suspicion à l'égard des interprètes? Ça m'amène au second point. Qui sont les interprètes? En fait, l'interprétariat est un métier très ethnicisé. La majorité des interprètes sont d'origine étrangère. Alors, soit ils sont nés en France de parents ayant connu la migration, et de parents ayant parfois connu une migration dans le cadre d'une demande d'asile, soit ils ont eux-mêmes connu l'expérience de la migration, dans un cadre familial, pour études, etc. Alors ça, c'est important à le préciser. En principe, les ex-demandeurs d'asile, donc les personnes qui sont passées par la procédure d'asile, qu'elles aient été déboutées, qu'elles aient obtenu le statut de réfugié, en principe, n'ont pas le droit d'exercer à la CNDA dans un souci d'impartialité. Mais ce principe peut être assoupli soit dans le cas de langues rares où on manque d'interprètes, Il y a aussi le cas de personnes qui ont été régularisées sous un autre nom que le nom de la demande d'asile et qui, de fait, se retrouvent à interpréter à la CNDA et avec parfois des configurations assez spécifiques où ils peuvent se retrouver en tant qu'interprète face à des juges qui ont été les juges auxquels lui-même a été confronté dans le cours de sa demande d'asile. Alors, cette ethnicisation du métier, elle est à souligner car tend à peser, comme je l'ai dit, sur les interprètes un soupçon de solidarité, entre guillemets, communautaire envers les requérants. Autrement dit, les interprètes sont renvoyés à une proximité pour partie assignée avec les demandeurs d'asile. Je dis pour partie assignée parce que, comme je vais aussi l'évoquer tout à l'heure, il peut y avoir une très forte distance des interprètes vis-à-vis des demandeurs d'asile, des différences de classe qui peuvent aussi entrer en compte, des différences de caste parfois, etc. Par ailleurs, pour un peu préciser qui sont les interprètes, il faut dire que les interprètes forment un groupe professionnel segmenté, que ce soit au niveau de leur diplôme, de leur trajectoire socio-professionnelle ou de leur rapport à l'emploi. Alors, rapidement, pour pouvoir intervenir à la CNDA, les interprètes, et c'est la condition qui est posée dans le marché public, doivent au moins avoir un bac plus 2 et une expérience antérieure dans la traduction ou l'interprétariat. Mais après, quand on regarde dans le détail leur formation, elle est très hétérogène. Certains ont une formation en sciences sociales, d'autres en mathématiques, d'autres en biologie, en sciences politiques, en journalisme, en littérature, etc. Et en termes de niveau d'études, ça va effectivement du bac plus 2 au doctorat. Beaucoup ne disposent pas de diplôme, en fait, dans l'interprétariat ni la traduction, même si c'est la formation initiale de certains d'entre eux, et notamment c'est le cas de certains diplômés de l'INALCO. Toujours est-il que la plupart parlent une langue acquise dans le cadre d'une socialisation familiale. Alors, ce qui permet aussi de parler en termes de groupes segmentés, c'est un peu le rapport à l'activité des... Le rapport que les interprètes entretiennent avec l'activité. Alors, très rapidement, en fait, soit l'interprétariat va être l'activité principale des interprètes, soit c'est une activité secondaire. Alors, quand c'est une activité secondaire, il y a souvent deux situations possibles. Soit l'interprétariat est exercé de manière parallèle à des études supérieures, et par exemple, ça va être le cas d'un étudiant en biologie qui va être interprète pour financer ses études. Dans la seconde situation, lorsque l'interprétariat est une activité secondaire, l'interprétariat va permettre à des travailleurs précaires qui peuvent exercer dans divers domaines d'arrondir au final leur fin de mois par le recours à une activité complémentaire. Alors, je n'aurais pas trop détailler les trajectoires, mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'on a parfois des passages de l'interprétariat comme activité secondaire à activité principale. Par exemple, le cas d'étudiants qui ne trouvent pas d'emploi à l'issue de leurs études, le cas aussi d'étudiants en droit qui ont échoué au concours d'avocat, par exemple, mais qui, lors de leur cursus, ont été amenés à faire des stages ou à accompagner des avocats à la CNDA, et qui, du coup, convertissent dans l'interprétariat. Voilà. Après, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que même quand l'interprétariat, c'est la principale activité des intéressés, leur intervention spécifiquement à la CNDA peut être soit régulière, soit occasionnelle. Puisque, en fait, les interprètes sont rattachés à des prestataires de services qui vont les missionner. Donc, ces prestataires les missionnent à la CNDA, mais ils peuvent aussi les missionner en PMI, dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les missionner à l'hôpital, à l'OFPRA, etc. Donc, certains interprètes, dont c'est l'activité principale, vont pratiquement tous les jours intervenir à la CNDA. Pour d'autres, même si l'interprétariat est leur activité principale, ils circulent dans beaucoup d'institutions et d'endroits et au final, ils ne viennent que relativement occasionnellement à la CNDA. Aussi, et c'est le dernier point pour un petit peu resituer la position des interprètes, l'interprétariat, c'est un métier qui reste très précaire à différents niveaux. Alors, certains interprètes ont un statut salarié, mais de plus en plus d'interprètes ont un statut d'auto-entrepreneur et ce statut d'auto-entrepreneur leur est de plus en plus imposé par les prestataires. Pourquoi ? Parce que les prestataires doivent aussi eux-mêmes s'ajuster à des besoins très fluctuants en langue selon la conjoncture migratoire. Et du coup, ben, si les interprètes ont le statut d'auto-entrepreneur, ça leur évite le coût constant du salariat, même quand il n'y a pas besoin en langue dans cette langue-là sur le moment. Donc la conséquence en termes de conditions de travail pour les interprètes, ben, c'est un salaire très fluctuant puisqu'ils sont pour beaucoup auto-entrepreneurs. Il y a aussi toute la question des droits sociaux, chômage, etc. Qui les met dans une situation précaire avec le statut d'auto-entrepreneur. Une autre condition, enfin, un autre effet aussi de cette c'est l'absence de cadre collectif. Que regrettent beaucoup les interprètes, notamment, et ce qui va m'amener au cœur du propos, l'absence de cadre collectif pour faire face au poids de la contamination, au poids de la souffrance, en fait, qu'ils peuvent rencontrer lors des audiences. Et puis, enfin, cette précarité, elle se répercute aussi sur le plan administratif, puisque, comme je l'ai dit, beaucoup en fait d'interprètes sont soit d'origine étrangère, soit sont de nationalité étrangère, et certains d'entre eux vont avoir des difficultés à renouveler leur titre de séjour ou parfois à obtenir une naturalisation parce que leur nombre d'heures travaillées ne va pas être jugé suffisant par la préfecture. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait considérer les interprètes comme des passeurs de frontières internes. Au final, le passage de cette frontière des catégories institutionnelles, pour eux-mêmes, n'est pas toujours acquis. Alors, comment tenir dans ces conditions le rôle d'interprète en audience et quel rapport avec les juges et les requérants? Alors, à la Cour, les attentes définies par l'institution en matière d'interprétariat partent d'un constat, et notamment le constat que le langage élaboré, c'est le terme employé dans le guide de l'interprétariat, que le langage élaboré des juges présente un décalage avec le niveau de compréhension des requérants qui peuvent être alphabètes notamment ou peu scolarisés. Du coup, il va être demandé aux interprètes d'adapter, si nécessaire, leur langage pour que celui-ci soit accessible et compréhensible pour les requérants. Autrement dit, les interprètes doivent opérer un travail de mise en registre et adapter le registre de langage des juges à celui des requérants va nécessiter pour les interprètes un travail de décodage de leur compréhension. Alors ce décodage ou ce déchiffrage va mobiliser plusieurs indices, par exemple l'origine sociale du demandeur d'asile, mais ce qu'il faut voir aussi, pour les interprètes, ils sont dans une situation qui est assez complexe lors des audiences, puisqu'en fait, ils n'ont aucune connaissance du dossier avant de rentrer dans la salle et avant le rapport du rapporteur. Donc, ils doivent faire ce qu'ils appellent ils sont plongés dans une situation d'interprétariat sans filet. Et donc, c'est, par exemple, ces indices vis-à-vis de l'origine sociale. Ça va être dans le rapport qu'ils vont pouvoir mieux situer le requérant, même si parfois l'exercice corporel, les vêtements, etc. peuvent aussi leur donner des indices. Alors, la difficulté pour les interprètes dans cette mise dans ce travail de décodage pour cette mise en registre peut par exemple être liée à la difficulté de faire passer le message quand il y a des termes que le requérant ne différencie pas nécessairement. Et parfois, l'interprète lui-même a ses débuts. C'est par exemple la différence entre main courante et plainte. Comment la traduire, en fait, et être sûr que le requérant comprenne ce langage technique. À cet égard, plusieurs interprètes considèrent que ces clarifications devraient être faites en amont par les avocats, et que ça relève du rôle de l'avocat et non pas du leur. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les reformulations des interprètes peuvent aussi cerner un langage a priori plus ordinaire. Certains vont d'emblée reformuler les questions des juges en les simplifiant parce qu'ils estiment qu'elles sont trop abstraites pour être comprises. D'autres vont d'abord reformuler telle quelle la question et puis introduire des précisions s'ils s'aperçoivent effectivement et non plus par anticipation que le requérant ne comprend pas. Par exemple, à la question « Décrivez-nous les infrastructures de votre village ?» certains interprètes vont d'emblée ajouter par exemple les routes, l'hôpital, la mosquée, d'autres non. Toutefois, en fonction du contexte de l'audience et de leurs expériences, les interprètes peuvent se montrer très prudents à l'égard de ces reformulations où on va par exemple exemplarifier, puisque pour certains, l'utilisation d'un langage élaboré peut être un moyen de vérifier pour les juges, vérifier le milieu social du requérant, par exemple, ou de vérifier son implication dans telle ou telle activité syndicale. Et dans ce cas, une reformulation trop longue, anticipée par l'interprète, pourrait servir le requérant en laissant supposer qu'il n'est pas capable de comprendre la question posée. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les reformulations dans les faits, les reformulations opérées par les interprètes ne se basent pas uniquement sur leur perception du niveau de compréhension, mais ces reformulations s'appuient aussi généralement sur une appréciation globale de la situation. Un exemple, face à un juge qui va demander au requérant de détailler les circonstances de son agression et puis les propos qui demeurent évasifs au requérant, l'interprète va prendre l'initiative d'introduire des précisions dans le questionnement. Il va rajouter « qu'est-ce que les agresseurs vous ont fait ? Ils étaient combien ?» Et dans ce cas, c'est pour ménager le climat de l'audience qui devient de plus en plus tendu que l'interprète va légitimer son initiative. La difficulté aussi à tenir le rôle d'interprète est accentuée lorsque parfois les interprètes estiment que les questions posées n'ont pas de sens par le contexte d'origine, au contexte du pays d'origine du requérant. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière les mots, et y compris derrière les mots les plus banals, il y a toujours la possibilité de malentendus linguistiques. Or, ces malentendus peuvent porter préjudice à la crédibilité de la présentation de soi et donc du récit produit. Alors, dans le texte que j'avais remis à Hélène Marsh pour la présentation du séminaire, je donne l'exemple d'une affaire qui concerne un requérant somalien âgé d'une vingtaine d'années. Le récit, il dit avoir été emprisonné et torturé par les milices Al-Shabaab pour avoir enfreint l'interdiction de jouer de la musique au village. Du coup, il avait eu un rejet de l'OFPRA et pour justifier le rejet, l'OFPRA avait notamment émis des doutes sur la qualité de son métier de musicien. Du coup, tout un ensemble de questions lors de l'audience va tourner autour de son activité ou de son métier de musicien. Et le président de la formation commence très tôt par lui poser une première question qui est « Quelles sont les gammes de notes en Somalie ?» Et là, l'interprète, donc j'assiste à l'audience, je ne comprends pas ce que dit précisément l'interprète, mais il semble en difficulté. Et puis, en français, il finit par s'adresser au juge en disant que les gammes de notes, ça n'existe pas vraiment en Somalie. le juge lui répond sèchement, ben, les notes alors, il existe bien des notes. Là, on voit que l'interprète a du mal à traduire puisque l'explication dure très longtemps. Le requérant ne sait pas répondre. Le juge va alors lui demander de citer des instruments traditionnels somaliens. Le requérant ne sait toujours pas répondre. Là, on sent la tension qui monte envers la formation de deux jugements, qui perd un peu patience. Et finalement, le juge, le président de formation, demande « Bon, alors, vous dites que vous êtes musicien, de quoi vous jouez ?» Et là, le requérant répond à l'interprète « Vous savez, chez nous, on joue de la musique en coupant un jerrican en deux et en faisant un rythme avec des baguettes. » Et donc, cette scène montre ici combien le mot « musicien » renvoie à des représentations sociales très différentes pour le juge, pour le requérant, et que ces représentations sociales restent de l'ordre de l'impensé, en fait, tant qu'elles ne sont pas explicitées, et que ce malentendu participe à discréditer, en fait, le requérant et son récit. Après, ce qu'on peut aussi se demander, à l'OFPRA, c'est le terme « musicien » qui avait été traduit, mais on voit bien aussi la différence entre de dire « je suis musicien et je joue de la musique ». Et qui a peut-être aussi là eu un décalage dans l'interprétariat qui a pu attiser le malentendu. Une autre difficulté pour les interprètes, ça va être de rendre compte des implicites, des sous-entendus, parfois ce qu'ils ressentent comme des pièges dans les questions des juges. Et parfois, les juges répètent à plusieurs reprises leurs questions et ça peut conduire à des malentendus avec les requérants qui ne comprennent pas pourquoi la question leur est réitérée puisqu'ils estiment avoir déjà répondu et parfois ça attise des tensions avec l'interprète puisque le requérant peut avoir l'impression que c'est l'interprète qui traduit mal, qui explique mal. Et de la même façon, très souvent lors des audiences, les juges martèlent « vous ne répondez pas à ma question » et souvent on ne sait pas trop si cette remarque est adressée au final à l'intention du requérant ou de l'interprète qui très souvent a l'impression d'être remis en cause dans ses compétences. Et j'y reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure, mais aussi parfois les interprètes ont l'impression que les requérants font exprès de ne pas comprendre la question posée, parce qu'il y a des contradictions par exemple dans leur récit, et cela se répercute à nouveau sur leur légitimité, puisqu'ils ont alors l'impression que face à ces échanges qui tournent en rond, la formation de jugement remet aussi en cause leurs compétences en tant qu'interprète. Et ce qui est lié vraiment aussi à ce que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, enfin la question de leur profil et de leur professionnalisation au final, qui est une professionnalisation très, très fragile. Alors, quelques mots aussi, parce que là je parle de la difficulté à traduire la question des juges à destination des requérants, mais les choses ne sont pas aussi évidentes pour les interprètes lorsqu'ils doivent traduire à destination des juges les réponses des requérants. Et notamment, ce qui est compliqué pour eux dans ce cas-là, c'est la gestion d'un temps de parole dont ils n'ont pas au final l'entière maîtrise. Parce que dans bien des cas, les interprètes vont avoir le temps de terminer leur interprétation des propos avant que les juges enchaînent sur d'autres questions. Mais très souvent, les interprètes se font couper la parole par les juges qui disent que ces explications suffisent, que ce n'est pas la question posée. Et encore une fois, l'agacement perceptibles dans leur ton de voix, semblent parfois se diriger autant vers l'interprète que vers le requérant. Ces contraintes, du coup, vont donner lieu de temps de parole, vont donner lieu à une double anticipation de la part des interprètes. Pourquoi double anticipation ? Parce que les interprètes, lorsqu'ils doivent traduire les propos des requérants, les réponses, vont à la fois anticiper le temps de parole qui va leur être accordé par la formation, et ils vont aussi anticiper la réponse qui est attendue par les juges. Et cette anticipation de la réponse, parfois, elle est très visible. Par exemple, lorsque l'interprète donc traduit la réponse, et puis face à la mimique du juge, à l'expression du visage du juge, l'interprète va tout de suite proposer « Attendez, je vais reformuler la question ». Donc là, l'interprète, juste en regardant le juge, voilà, se rend compte que ce n'est pas la question, c'est que ce n'est pas la réponse attendue par le juge. Et quand l'interprète se propose de reformuler les questions, certains présidents de formation laissent faire, d'autres non, se posent vraiment en garant de l'autorité et de distribution des échanges en disant non, c'est moi qui pose les questions et c'est pas l'interprète. Alors, par rapport à cette anticipation du temps de parole, pourquoi c'est important? Parce que ça joue beaucoup sur la manière dont les interprètes vont traduire les réponses. Quand les interprètes se font couper la parole par les juges, il y a différents types de positionnements qui peuvent avoir lieu en audience. Il y a un premier positionnement où les interprètes vont rappeler aux juges ce qui relève du droit, du devoir de leur fonction d'interprète. Par exemple, permettez-moi, laissez-moi terminer, je dois tout traduire. Et ce qu'on constate, c'est que plus les interprètes sont expérimentés, souvent plus ils sont parfois âgés aussi, ils arrivent à s'imposer de cette façon-là. Mais il y a aussi un second type de positionnement qui est plus indirect. Les interprètes vont changer l'ordre des éléments de réponse apportés pour rendre la réponse plus compréhensible et audible, et éviter que le juge repose ensuite la même question, mais aussi pour les interprètes vont chercher par commencer par ce qui, à leurs yeux, leur semble le plus important. Et du coup, être sûr d'avoir le temps de dire l'essentiel avant d'être coupé. Et donc, on voit qu'il y a toute une reconstruction et une remise en ordre du récit par les interprètes qui est liée à la fois à leur anticipation du temps de parole, mais aussi qui est lié à leur anticipation de la réponse attendue, puisqu'ils vont mettre en avant ce que eux estiment être la réponse attendue. Donc, on voit bien ici que cette mise en ordre du récit, elle participe de fait de la construction du récit de l'asile, pas forcément volontairement dans l'idée d'aider le demandeur d'asile, mais quelque part pour pouvoir assurer son rôle jusqu'au bout. Et on voit bien là ici que prendre en compte les conditions de production de l'interprétariat, et dans ce cadre contraignant, c'est nécessaire pour éclairer la manière dont les interprètes tiennent leur rôle. Alors là, j'ai un petit peu évoqué les rapports avec les juges. Alors très rapidement, parce que j'ai vu que le temps passe, mais... peut-être dire deux mots sur les rapports avec entre interprète et demandeur d'asile. Il y a vraiment cette double dynamique de proximité-distance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la proximité des interprètes envers les demandeurs d'asile, elle est pour partie assignée par le processus d'ethnicisation qui fait que dans les yeux de la formation de jugement, les interprètes sont d'abord perçus comme des interprètes d'origine étrangère, plutôt que simplement, entre guillemets, comme des interprètes. Donc, il y a cette proximité assignée, et dans le même temps, la manière dont les interprètes peuvent catégoriser les demandeurs d'asile marque une certaine distance et processus de distinction. Par exemple, les interprètes, à propos des demandeurs d'asile, vont dire « ce sont des gens illettrés, ce sont des gens analphabètes, etc. » Et ce qu'on voit, c'est... Alors, il y a la question parfois des rapports de classe qui se jouent, dans un sens comme dans un autre, parce que parfois, c'est l'interprète qui est issu d'une classe sociale supérieure au requérant, mais parfois, c'est le requérant qui peut exprimer un mépris visible lors de l'audience à l'égard de l'interprète, notamment lorsque le requérant appartient à un milieu social privilégié dans son pays d'origine. Mais au-delà de ces rapports de classe, se jouent aussi des rapports de place où entre en jeu la fragilité de la légitimité de la figure de l'étranger. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, alors très rapidement, en audience, parfois, on voit explicitement que le requérant va chercher le soutien de l'interprète, ça se fait par des échanges de gestes, de regards, parfois des gestes un peu symboliques, comme par exemple le cas d'un requérant érythréen en pleurs, qui avait le bras cassé et qui va demander à l'interprète plutôt qu'à l'avocat, qui est également assis à côté de lui, de lui ouvrir son paquet de mouchoirs, par exemple. Cette proximité, elle se voit aussi lorsque certains demandeurs d'asile, à l'issue des audiences, ou parfois l'avocat, à l'issue des audiences, demande à l'interprète, est-ce que vous ne connaîtrez pas, par exemple, une association kurde qui pourrait l'aider, etc. Donc là, on voit que c'est une sollicitation qui repose sur l'identification d'origine réelle ou supposée commune. Mais il y a aussi de fortes tensions qui peuvent s'exprimer entre les requérants et les demandeurs d'asile. Et au-delà des questions sur lesquelles je passe un peu rapidement, du coup, de distinction de classe, d'âge ou de relations interethniques, ce qu'il faut voir, c'est que les interprètes, ils interviennent, certains d'entre eux, à la fois à l'OFPRA et aussi à la CNDA. Et la situation est particulièrement inconfortable pour les interprètes lorsqu'ils croisent à la CNDA des demandeurs d'asile pour lesquels ils ont interprété à l'OFPRA, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent, un argument qui va être avant dans les recours, ce sont les erreurs d'interprétariat à la CNDA, à l'OFPRA. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait comme ça des prises à partie dans les couloirs entre un interprète, qu'un interprète soit pris à partie par un requérant. Et alors, je ne voudrais pas être trop longue, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces enjeux aussi de proximité et distance sont complexes parce que se joue aussi à travers cette dynamique la légitimité de l'interprète. Très souvent, même si, comme je l'ai dit, l'interprétariat répond souvent à des besoins pragmatiques, voilà, vivre, trouver un emploi, etc., un revenu, ce qui va être mis en avant dans le discours de légitimation ou de justification des enquêtés, pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont devenus interprètes, c'est cette envie d'aider. Et souvent, envie d'aider, se rendre socialement utile. Les interprètes mettent souvent un point d'honneur à souligner le fait que eux, contrairement aux juges, ils ne sont pas là en fait pour juger, pour se prononcer sur la véracité ou sur le mensonge, mais en fait, de fait, à leur corps défendant, les interprètes font tous un jugement sur les demandeurs d'asile et sur leur histoire. Et d'ailleurs, ça va jouer, comme je le montre également dans le papier transmis, sur leur implication et sur leur investissement lors de l'audience. Certains interprètes qui peuvent être assez critiques à l'égard d'une institution qui traite beaucoup de demandes d'asile, dans le même temps, peuvent, au bout d'un moment, faire part eux-mêmes de leur exaspération à l'égard de demandeurs d'asile qui racontent toujours la même histoire. Pourquoi ? Parce que, ou qui font exprès, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas comprendre les questions. Parce que même si les interprètes disent comprendre ces tactiques ont pour effet de remettre en cause leurs compétences. Alors même qu'ils souffrent d'un profond manque de reconnaissance de la part de l'institution. Donc voilà, des rapports, bon, je condense un petit peu, mais qui restent très, très, très complexes. Donc, pour conclure, voilà, très rapidement, en fait, les interprètes, ils occupent structurellement une place dominée au sein de l'institution. Ils détiennent néanmoins un certain pouvoir qui est lié à leur maîtrise d'une zone d'incertitude, qui est lié à leur savoir linguistique, puisqu'ils comprennent, voilà, précisément ce qui se dit de part et d'autre. Et on voit continuellement, dans le cadre des audiences, comment les juges en position dominante tentent de réduire cette incertitude en mettant en avant l'autorité qu'ils représentent. Et cette autorité, s'exprimer à travers les injonctions qui sont faites aux interprètes. Vous pouvez commencer à traduire, qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire, ma question est simple en une phrase, etc. Donc, les juges ont vraiment l'autorité pour cadrer, distribuer les échanges, tandis que les interprètes, ils ont un certain pouvoir sur les productions langagières, à travers leur manière de reformuler les réponses ou les questions, mais sans pour autant avoir d'autorité. Et enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que la position ambivalente et peu valorisée des interprètes dans l'institution est accentuée par le fait qu'ils bénéficient d'une légitimité fragile et d'une confiance, comme le dit Sonny Persay dans un de ses ouvrages, d'une confiance sous caution en fait. Hein, toujours cette idée de suspicion où va être évaluée à la fois leur compétence et leur loyauté à l'institution, qui pose la question de leur professionnalisation qui reste difficile. Voilà, et donc vraiment pour terminer, je dis que c'est intéressant de s'intéresser aux questions de l'interprétariat quand on travaille sur l'asile, parce que ça permet de relier deux volets qui sont souvent dans les travaux sur l'asile appréhendés de manière un peu séparée. Ces deux volets, c'est d'une part la construction du récit et d'autre part le fonctionnement des institutions. Je vous remercie en espérant de ne pas avoir été trop longue, d'autant plus à distance.
Donc, merci Anaïs. Merci. Alors, juste un petit point technique. Normalement, nous faisons une pause pour la communication et le moment d'échange avec le public, mais aujourd'hui, ça ne sera pas possible, étant donné que nous avons pris un peu de temps pour installer la salle. Donc, je vous propose, si tu en es d'accord, Anaïs, d'enchaîner directement sur des échanges, des questions avec vous. Et voilà. Donc, bien sûr, vous êtes invité à poser des questions à Anaïk. Et normalement, on devrait entendre. Moi, j'avais une question. C'était par rapport au nombre, en pourcentage de personnes sélectionnées qui après bénéficient d'une protection, d'un taux de protection. Et je me demandais s'il y avait un quota maximum imposé par le FRA.
J'ai pas très bien entendu la question. Est-ce que.
Donc, ça va être. Aussi,
tu peux parler mieux quand tu parlais. Est-ce que tu peux la
Je me demandais s'il y avait un taux maximum imposé par l'OFRA.
Non, officiellement, il n'y a pas de quota.
D'accord.
Officiellement, il n'y a pas de quota où qu'on pourrait prendre que tel pourcentage, on pourrait accepter que tel ou tel pourcentage. Après, dans les faits, il y a une certaine pression sur l'examen des demandes d'asile, mais il n'y a pas de quota ni à l'OFRA ni à la CNDA qui sont prédéfinis.
Et les 18% qui ont un taux de protection, qu'est-ce que ça comprend le taux de protection?
C'est-à-dire l'obtention du statut de réfugié qui va ouvrir à le droit à une carte de séjour de 10 ans et puis du coup des droits de résident ou alors la protection subsidiaire qui est une protection qui va être simplement accordée pour un an. Ensuite, il faudra que... Enfin, le titre de séjour ne sera accordé que pour un an et ensuite il faudra refaire une nouvelle demande. Et donc là, la protection est beaucoup plus précaire. Et ce qui va entrer en compte dans la protection subsidiaire, si par exemple le pays va être considéré comme stable au bout d'un an, ce sera très difficile de renouveler la protection subsidiaire. Sachant que en fait, dans les catégories, il y a une certaine porosité, donc certaines personnes peuvent ensuite, par différents biais, essayer de faire obtenir un statut leur permettant de résider sur le territoire d'autre manière. Comme il y a les déboutés de l'asile vont ensuite essayer de se faire régulariser par d'autres biais. Mais voilà, le taux de protection, en fait, c'est le statut de réfugié qui va être soit accordé pour 10 ans ou alors une protection subsidiaire qui va être accordée pour un an. Et la différence, c'est souvent lorsqu'on pense que... parce qu'en fait, la question principale qui va être récurrente, qui est posée, c'est pourquoi est-ce que vous avez quitté votre pays et que craignez-vous en cas de retour? Donc, il faut pouvoir montrer qu'en fait, il n'y a pas de protection possible en cas de retour et que la personne est en danger si elle retourne dans son pays.
Bonjour, j'ai toujours l'occasion de travailler avec des familles en demande d'asile cet été. Et j'ai été très étonnée que des travailleurs sociaux m'ont dit que depuis 2014, des enfants mineurs, donc les bas âges, ont possibilité de faire des demandes d'asile indépendamment de leurs parents. Et du coup, je voulais un petit peu discuter avec vous autour de ça, parce que vous disiez que c'était suffisamment complexe pour les interprètes de, on va dire, de pas défendre les dossiers, mais en tout cas de rendre compréhensibles les situations. Alors, comment il est possible pour eux de défendre des enfants indépendamment de leurs parents? Et quelque part, avancer l'hypothèse que des enfants en bas âge puissent, indépendamment de leurs parents, survivre seuls, en tout cas, parce que il ne semble pas que d'avoir entendu que ces enfants-là seraient placés soit dans des familles ou dans des structures adaptées. Donc, je voulais voir avec vous comment ces questions-là peuvent se... de comprendre.
Alors, ce qu'il faut vraiment bien voir, c'est que les interprètes à l'OFPRA ou à la CNDA, ils n'ont pas du tout le rôle, et c'est même ce qui est proscrit, ils n'ont pas du tout le rôle de défendre. Ils vont avoir le rôle de rendre compte de la manière, on va leur demander d'être le plus neutre, le plus impartial possible, mais ils n'ont pas du tout à endosser un rôle d'avocat. Ça, c'est plutôt ce qu'on va retrouver dans les associations, par exemple, d'aide aux demandeurs d'asile, où au final, on a souvent des interprètes bénévoles, parfois des interprètes professionnels, mais surtout des bénévoles. Et là, le rôle de l'interprète est plus vu, on parle même parfois de soutien, avec un rôle très, très extensible, et où l'interprète va vraiment se faire l'avocat du requérant, en pouvant lui donner des conseils sur ce qu'il faut dire, sur ce qu'il ne faut pas dire, sur comment il faut le dire, etc. etc. À l'OFPRA et à la CNDA, l'interprète n'est pas du tout tenu de défendre, et au contraire, il risque d'être... alors, il y a une fiche d'incident d'audience, par exemple, qui existe depuis 2016 à la CNDA, et le juge estime par exemple que l'interprète est sorti de son rôle, justement en prenant la défense du requérant, il peut suspendre l'audience au nom de l'impartialité de l'interprète, et puis ensuite faire remonter ça au service interprétariat, et il peut y avoir possibilité ensuite pour l'interprète, si les incidents se multiplient, de re-intervenir à la CNDA. Donc, il n'y a pas du tout cette idée que l'interprète est là pour défendre. Il doit être plutôt loyal à l'institution Et être loyal à l'institution, ça veut dire essayer d'être le plus neutre et le plus impartial, en fait. Et justement, ce que veut à tout prix contrôler l'institution, c'est d'éviter que l'interprète prenne ce rôle de défenseur ou d'avocat. Donc, les configurations sont vraiment différentes dans les associations où le rôle d'interprète est encore souvent encore moins formalisé qu'à la CNDA. Mais l'interprète, vraiment, n'a pas à prendre le rôle de l'avocat et il n'a pas du tout à prendre la défense d'eux. Il est censé, c'est vraiment dans les codes de déontologie, être le plus neutre, le plus impartial possible. Et ce qui va être jugé par l'institution, ça va être, voilà, quelque part, ça va être noté par rapport à ça, on ne doit pas prendre parti. Et il peut y avoir en audience des rappels à l'ordre, et puis ça peut aller jusqu'à l'interdiction d'exercer à la CNDA. Ce qu'il faut voir aussi, et ce qui montre justement que l'interprète à la CNDA, il est censé avoir un rôle de défense du demandeur d'asile, c'est que l'interprète qui va intervenir à la CNDA, il est censé n'avoir eu auparavant aucun contact avec le demandeur d'asile. Et ce qui se passe parfois, c'est que les avocats n'ont pas eu vraiment le temps de s'entretenir avec le demandeur d'asile avant l'audience, et donc de bien préparer le dossier, soit parce que c'est posé la question de la langue, et que le requérant n'avait pas forcément les moyens de payer un interprète pour pouvoir communiquer avec son avocat. Et dans les centres d'accueil, par exemple, pour demandeurs d'asile, parce que les travailleurs sociaux qui parfois bricolent un peu et essayent de travailler en amont les recours pour transmettre des éléments de réponse à l'avocat, mais parfois, du fait de ce problème financier lié à la langue et puis les contraintes de temps aussi, mais il n'y a pas eu de rencontre préalable entre l'interprète et l'avocat. Et puis parfois, il n'y a pas eu de rencontre préalable non plus lorsque les demandeurs d'asile vivent à la rue, par exemple, ça complique aussi vivre à la rue, ne pas avoir de ressources, la possibilité de s'être entretenu auparavant avec son avocat. Et il arrive parfois que les avocats, du coup, dans les couloirs, quelques minutes avant l'audience, cherchent un interprète en allant parfois demander dans la salle d'interprète, qui est la salle de pause qui est dédiée aux interprètes, interpellant un interprète qu'il connaît dans les couloirs pour savoir si cet interprète venir 5 minutes avec lui là dans les couloirs pour qu'il puisse s'entretenir à minima 5 minutes avant l'audience en amont. Certains interprètes acceptent de faire ça. Normalement, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire que si ils sont intervenus pour faire l'interprète entre le demandeur d'asile et l'avocat avant l'audience, normalement, il doit se retirer lors de l'audience. Il y a un devoir de report où il doit dire, comme il a auparavant été en relation avec l'avocat et le demandeur au sujet du dossier, ça doit être un autre interprète qui normalement doit venir exercer pendant l'audience. Alors, certains interprètes le font quand même, surtout lorsqu'il y a des relations qui, au fil du temps, peuvent aussi se tisser avec les avocats. Et là où ambivalent, puisque les avocats, les interprètes vont justifier ces pratiques en disant que c'est pour rendre service, mais en même temps, ça ne remet pas en cause leur loyauté à l'institution. Et parfois, lors des plaidoyers, les avocats vont dire, comme me l'a expliqué d'ailleurs l'interprète tout à l'heure, et là, ce sont des situations qui vont mettre fondamentalement les interprètes en porte-à-faux vis-à-vis des juges. Puisqu'en fait, ils ne sont pas censés, ils n'ont pas le droit, dans la codification de leur fonction, d'exercer ce rôle un peu de mise en contact en amont de défense. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment encadré, ou qui tente d'être encadré. Donc, ça parfois, mais ça dépasse le rôle, ça transgresse en fait les normes de l'institution.
y a une autre question? J'aimerais poser une question à Naïk. Donc, moi, j'ai une question sur la question de, justement, lorsque les interprètes sont conduits à ménager le climat de l'audience. Est-ce que tu leur as posé des questions sur la façon dont ils qualifient ce climat? Quels sont pour eux les indices d'un climat propice à une bonne interaction, si j'ose dire, entre requérant et juge? Quels sont les critères, à partir de quels critères ils qualifient en fait ce climat? Voilà, c'est ma question.
Oui. Alors, ce climat, souvent, c'est lié à la manière dont les juges vont poser les questions. Par exemple, lorsque les juges vont parfois aussi couper ce qu'est en train de dire, alors soit l'interprète, soit le requérant qui parle dans sa langue, en disant « non, mais ma question est simple, vous répondez en une phrase, j'attends pas un roman, non, mais c'est pas ça que je vous demande précisément ». Donc, les juges vont explicitement en fait intervenir pour recadrer les échanges où il y a… Alors, le ton de voix qui bâtisse, il y a aussi le jeu des regards avec parfois voilà, des juges qui, au bout d'un moment, peuvent se tourner vers la fenêtre, montrer par des petits signes qu'au final, ils n'écoutent plus. C'est surtout à travers les répétitions des questions qui montrent voilà, une impatience du juge qui n'a pas réponse à la question qu'il pose, lorsque la réponse en fait tombe toujours un petit peu à côté, être vu par la formation du jugement au bout d'un moment à la fois comme une perte de temps, parce qu'il faut voir aussi que les audiences durent sur la journée, hein, elles commencent à 9h, elles peuvent se terminer à 18h, à 19h, etc. Et puis qu'il y a cette idée que le demandeur d'asile prend un formation pour des imbéciles en racontant n'importe quoi. Donc c'est à partir de ces indices qui sont au final très corporels et puis dans la manière, le ton de voix et dans la manière de poser les questions que parfois donc les interprètes vont prendre les devants pour essayer de faire préciser le plus possible les réponses des requérants. Sachant que ce ménagement du climat, les interprètes, ils sont aussi très sensibles, puisque comme j'essayais de le dire tout à l'heure, lorsque le requérant répond à côté, lorsque ses réponses restent imprécises, etc., et lorsque la formation de jugement s'impatiente, très souvent, les interprètes ont l'impression eux-mêmes d'être mis en cause dans leurs compétences. Et y a parfois même le doute qui peut être formulé explicitement en audience, est-ce que c'est qui traduit mal ou est-ce que c'est le requérant qui ne sait pas répondre? Donc ça met toujours en porte-à-faux en fait les interprètes. Que ces doutes au final soient explicitement formulés ou qu'ils ne le soient pas explicitement formulés, mais dans tous les cas, les interprètes se sentent mis en porte-à-faux dans leurs compétences et c'est lié vraiment au manque de reconnaissance qu'ils ont au niveau de l'institution qui se matérialise aussi dans les salaires, dans leurs conditions de travail et qui est lié au fait qu'on est sur un métier qui est au final très très ethnicisé et il y a très peu de formation. Enfin, les personnes qui ont un diplôme en interprétariat traduction, généralement, elles visent d'autres métiers comme interprète de conférences ou des choses comme ça, mais elle ne vise pas ce type d'interprétariat qui s'exerce dans des conditions de travail très précaires, sans vraiment collectif de travail, des formations qui sont un petit peu sur le tas, même si elles essayent d'être de plus en plus encadrées, des salaires précaires, un statut d'auto-entrepreneur très précaire, etc.
D'accord, merci.
Je peux poser une petite question?
Bonjour.
Bonjour, c'est Je m'excuse si c'est quelque chose qui a été abordé, mais j'ai eu du mal à me connecter après avoir été éjecté de la salle. Je m'interrogeais sur les variations en fait, au sein de ce groupe des interprètes, et en particulier les variations nationales, c'est-à-dire est-ce qu'on a des profils de professionnalisation qui varient selon les nationalités, et puis des types de perceptions qui apparaissent marquées, notamment dans le rapport aux juges. Voilà ce genre de choses qui ont été observées comme des régularités.
Non, il y a alors variation dans les pratiques. La variation dans les pratiques est pas tellement liée en fait aux nationalités. C'est lié à l'expérience des interprètes, aussi parfois à leur propre trajectoire. Par exemple, je pense là au cas d'un interprète qui a été un demandeur d'asile débouté. Donc normalement, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui est passé par la procédure d'asile n'a pas le droit d'exercer à la CNDA ou à l'OFPRA pour des raisons qui seraient vues comme, du coup, il serait nécessairement, il pourrait pas être neutre, etc. Mais voilà, en l'occurrence là, c'est quelqu'un qui a obtenu un statut au séjour et une régularisation sous un autre nom. Il se retrouve face au juge, il est très critique sur le fonctionnement de l'institution qu'il l'a lui-même rejeté. Il va avoir tendance vraiment à s'imposer. Et par exemple, un exemple de tension, comme on l'a dit tout à l'heure, lors d'une audience, une juge s'impatiente un peu en disant à l'interprète que c'est pas du tout la réponse, hein, c'est pas du tout la question posée. Et là, l'interprète lui dit bah, vous voulez pas que je donne la réponse quand même. Voilà. Et donc, il va faire jouer son professionnalisme contre. Et c'est vraiment lié, lui, à un positionnement assez militant et qui est lié aussi à sa propre trajectoire. Ce qui va jouer aussi beaucoup dans les variations des pratiques. Alors, certes, il y a un capital qui est différent et c'est pas la même chose pour un étudiant en biologie qui exerce depuis 2 mois à la cour, de se positionner face à un juge que quelqu'un qui a un doctorat en sciences politiques et qui exerce depuis 10 ans à la cour. Il va se positionner de manière à plus réussir à s'imposer dans les échanges. Mais ce qui va jouer aussi, c'est des variations au niveau de... qui sont rejouées au sein de chaque audience, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les interprètes se mettent vraiment, enfin, distinguent leur posture de celle des juges en disant qu'eux, ils ne sont pas du tout là pour juger et émettre un avis sur les récits qui sont livrés. Sauf que, de fait, ils se font tous un jugement sur la véracité ou sur la cohérence ou pas des propos. Et parfois, en l'occurrence, croire au récit qui est livré, parfois croire aussi d'autant plus à ce récit que ce récit peut faire écho à une histoire personnelle ou familiale, va introduire un plus grand investissement dans les échanges, où là, l'interprète va tout faire, par exemple, pour dissiper un malentendu. Et parfois, comme dans le texte que j'avais transmis à Hélène, prendre même le rôle d'avocat en sortant du rôle prescrit. Et je pense là notamment au cas d'une interprète albanaise. C'était le cas d'une audience qui portait sur des problèmes fonciers. Beaucoup de questions tournent autour de l'expropriation des terres et puis les conflits et les menaces qu'avait reçues un couple lié à ce conflit foncier. La formation de jugement ne comprend pas trop. Enfin, voilà, on voit qu'il y a des malentendus. Et au bout d'un moment, l'interprète se positionne en disant « Excusez-moi, mais si je peux me permettre, c'est lié. » Voilà, elle va introduire, elle va prendre ce rôle d'avocat très, très brièvement. Et après, en entretien, et ça aussi, c'était intéressant, puisque avant un entretien avec cette interprète qui me disait qu'elle, jamais dans les audiences, elle allait prendre ce rôle d'avocat et prendre expliciter un contexte géopolitique, etc. Après coup, sur cet épisode, elle avait expliqué que là, elle s'est permis cette initiative parce que vraiment, cette histoire faisait écho à sa propre histoire familiale. Du coup, elle croyait vraiment Et elle voulait tout faire, en fait. Elle s'investissait vraiment dans les échanges pour dissiper le malentendu en allant au-delà des frontières de son rôle. Inversement, cette même interprète, dans des audiences où on voit que ses rapports sont assez conflictuels avec le demandeur d'asile, elle va se mettre beaucoup plus en retrait et ne va pas chercher à dissiper plus que ça des malentendus. Donc, il y a à la fois des éléments, on va dire, un peu structurants de trajectoire liés à l'expérience, son propre parcours et puis aussi au capital qu'on a pour se positionner face au juge qui représente quand même l'autorité, etc. Mais à chaque fois, il y a quand même des variations. Il n'y a pas un déterminisme. On ne pourrait pas dire que ce même interprète, je l'ai vu dans des investir son rôle au final de manière très différente et souvent ce qui intervenait, c'était est-ce que lui-même était touché ou pas par l'histoire. Même si, dans les discours, les interprètes vont toujours dire « Nous, on n'est pas là pour juger, pour prendre parti, pour dire c'est vrai ou c'est faux. » Mais ça va quand même jouer de fait dans l'investissement, dans les échanges.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous n'avons que la place pour une toute dernière question parce qu'il faut impérativement, j'en suis désolée, que l'on quitte cette salle à 16h55 pour des raisons de logistique. Une dernière question peut-être dans la salle. Oui.
Oui, bonjour. Je voulais savoir simplement si il vous est arrivé d'observer des situations où un avocat pouvait potentiellement endosser le rôle à la fois d'interprète et d'avocat dans le cas où il connaîtrait la langue du requérant.
Oui. Alors, en fait, les audiences doivent se déroulent en français, même y compris, parfois il y a des juges qui d'origine étrangère qui peuvent parler aussi, par exemple, l'arabe, ou etc. Les avocats, on est dans un jugement, ils vont devoir s'exprimer toujours en français. Mais il arrive effectivement que certains avocats parlent la langue d'origine des requérants et du coup comprennent aussi ce que disent les interprètes. Mais les avocats ne vont pas pouvoir en audience s'exprimer dans la langue du requérant, ils seront obligés de s'exprimer en français. Cela dit, ces configurations sont souvent très inconfortables pour les interprètes, puisque comme je l'ai dit, ils se sentent toujours un petit peu remis en cause dans leurs compétences. Et là, le fait que l'avocat comprenne précisément ce qu'ils me disent et comment ils me traduisent, les met dans une posture assez inconfortable où ils se sentent vraiment mis sous pression et sous surveillance. Et c'est déjà arrivé lors d'une audience que l'avocat, c'était une interprète kurde, l'avocat a du coup parlé aussi kurde, et que l'avocat remette en cause, face allusion à une mauvaise traduction de la part de l'interprète. Là, il y a eu, l'interprète a tout de suite réagi et a demandé à la formation de se positionner et de entre guillemets de prendre sa défense. Et là, il y avait les frontières des rôles de chacun qui étaient mis en jeu. Donc oui, ça arrive que les avocats parlent les langues d'origine, mais ils doivent néanmoins, lors des audiences, passer par les interprètes, ce qui met d'autant plus les interprètes sous pression. Après, ça facilite par contre, la préparation du recours, puisque l'avocat peut s'entretenir directement avec le requérant pour préparer l'audience et le recours, et il n'y a pas besoin de passer par un interprète qui pose aussi les questions financières.
Très bien. Donc, nous arrivons au bout de la séance. Merci beaucoup, Anaïk, pour ton intervention.
Merci à vous.
Ça aurait été une joie de t'accueillir et j'espère qu'on aura l'occasion, ce que tu viennes de Strasbourg jusqu'à Caen, rencontrer les étudiants et les collègues. Donc, je te remercie. Merci aussi au public pour vos questions et votre attention. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Thank you.